Et aujourd'hui, on va aborder un nouveau livre dans les petits prophètes, le livre de Michée. Je vous invite à vous y tourner. Donc, c'est entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si vous arrivez à Matthieu, vous êtes trop loin, il faut revenir en arrière. Et après, il y a ces petits prophètes. On les appelle petits parce que le volume de leurs écrits n'est pas aussi important que les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel ou Daniel. Voilà, nous allons prier et remettre cette étude au Seigneur. Oui Seigneur, tu es un Dieu plein d'amour, mais aussi un Dieu saint. Et Seigneur, tu ne peux pas tolérer le péché, tu dois le juger. C'est ce que nous voyons dans cette étude du livre de Michée. Mais en même temps, tu es un Dieu plein de compassion, un Dieu qui a même du mal à juger les hommes, Seigneur. Dans le sens où ce n'est pas ton dessein. Tu veux que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité et se repentent pour être en relation juste et harmonieuse avec toi. Et Seigneur, on te remet cette étude qui commence aujourd'hui. Merci de nous montrer ce que tu as comme plan dans l'étude, Seigneur. Tu es un Dieu plein de sagesse. Et on voit que tu es prêt à juger. Le jugement qui va tomber sur ces deux royaumes de Juda et de Samarie, Seigneur d'Israël, est imminent dans l'étude que nous faisons. Mais en même temps, Seigneur, tu voudrais l'éviter. Tu veux annoncer le pardon qui va venir et tu veux nous apprendre à vivre. Et même si ces lignes ont été écrites il y a près de 2800, presque 3000 ans, Seigneur, ces principes restent d'une actualité brûlante. Parce que l'homme au naturel ne change pas, nous le voyons. Nous sommes à la base corrompus par le péché. Et si nous ne sommes pas transformés par toi, Seigneur, si nous ne venons pas à toi, tu ne nous recrées pas en créature nouvelle, Seigneur, nous avons toujours ce vieux principe de péché qui fait que notre monde est dans l'état où il se trouve. Beaucoup de potentiel, de bonnes choses, mais aussi toujours la corruption, les meurtres, les guerres, les mensonges. Seigneur, tu veux encore nous parler par ce prophète de jadis, Seigneur. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Touche nos cœurs, transforme nos vies. Par le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Amen. Si vous vous souvenez, nous avons terminé le livre de Jonas avant la retraite. Et là, on avait été émerveillés par un réveil à Ninive, un réveil chez les Assyriens. Mais force est de constater, quand on aborde le livre de Michée, que les Assyriens ont oublié le réveil. Ils sont revenus à leur vieille tendance d'être un peuple cruel, un peuple qui est avide de conquête, un peuple qui veut subjuguer le plus grand nombre de personnes et de peuples. Et le réveil, le merveilleux réveil qui avait touché la ville de Ninive et l'empire d'Assyrie, il est loin derrière déjà. Et ça, c'est un avertissement qu'on ne peut pas se contenter du réveil de nos parents ou de nos grands-parents. Comme on disait, le changement, c'est maintenant. Le réveil, ça doit être maintenant. On ne peut pas se dire, oh, c'est chouette, dans les années 60, il y a eu un réveil chez les hippies en Californie et le mouvement Calvary Chapel a démarré. On est sous le manteau de ce réveil d'il y a presque 60, 40, 60, ça fait 50 ans, et on n'a plus d'efforts à faire. Pas qu'on ait des efforts à faire, tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher et de cultiver une relation personnelle avec Christ. Et donc on va lire ce texte, le début du texte du moins, le chapitre 1. Si vous voulez regarder avec moi, je lis dans la version de la Bible Second 21. Michée 1:1. Parole de l'Éternel adressée à Michée de Moréchef durant les règnes de Jotham, Achaz et Ézéchias sur Juda, vision qu'il a eue sur Samarie et Jérusalem. Écoutez-vous, tous les peuples, sois attentive, terre, avec ce que tu contiens. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous ses pas, les montagnes s'effondrent. Les vallées s'entrouvent comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Quelle est la révolte de Jacob ? N'est-ce pas Samarie ? Quels sont les hauts lieux de Juda ? N'est-ce pas Jérusalem ? Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne. Je ferai rouler ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondations. Toutes ses sculptures sacrées seront brisées, tous ses salaires impurs seront livrés aux flammes, et je briserai toutes ses idoles, rassemblées grâce au salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai. Je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. En effet, sa plaie est douloureuse. Elle s'étend même à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas dans Gath. Ne pleurez surtout pas. Roulez-vous dans la poussière à Beth-Léafra. Passe, habitante de Shaphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsanan n'ose pas sortir. Le deuil de Beth-Hatzel vous prive de son abri. L'habitant de Maroth tremble pour son bien-être, car le malheur est venu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de Lachish. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi on a trouvé les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchet-Gat. Les maisons d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitant de Maresha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adullam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en exil loin de toi. Nous allons nous arrêter ici pour l'instant. Parole de l'Éternel adressée à Michée de Moréchef. C'était une petite bourgade à 40 km au sud-est de Jérusalem, la capitale de Juda. Il venait de la Cambrousse, de la campagne, et il est appelé par Dieu, qui lui donne des visions, à parler au royaume du nord et au royaume du sud. Vous vous souvenez qu'après David et Salomon, le royaume d'Israël s'était retrouvé divisé en deux. Au nord, le royaume qu'on appelait le royaume d'Israël, ou d'Éphraïm, qui était une des 10 tribus les plus importantes, avec pour capitale Samarie. Et au sud, le royaume de Juda avec Jérusalem pour capitale. C'était Juda et Benjamin, les deux tribus du sud. Quand on regarde le livre d'Ésaïe, Il est dit au début de, au chapitre 1, un peu comme l'introduction de la vision des visions d'Ésaïe. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Donc lui, c'était sur le royaume du sud. Durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Donc on voit qu'en fait, leur ministère, le ministère d'Ésaïe, a été en coïncidence, où il y a eu une partie contemporaine avec le prophète Michée. On peut imaginer que peut-être ils prenaient de temps en temps un café ensemble et qu'ils parlaient de leur vision. Il y avait aussi le prophète Osée qui était de la même période. Les règnes de Jotham, Akaz et Ézéchias étaient donc des rois qui régnaient sur Jérusalem, sur Juda. Et Jotham a été un roi à peu près bon, Akaz était moins bon, et Ézéchias a été un roi très bon, qui a fait des réformes, probablement sous l'influence de ce prophète Michée. Et puis il s'est adressé aussi à la ville donc de Samarie. Il ne s'est pas simplement contenté du royaume du sud dont il était originaire, mais il a parlé au royaume du nord. Sans doute pensait-il qu'il y avait déjà Ésaïe qui s'occupait du sud. Le sud était, si je puis dire, entre de bonnes mains. Et donc ce prophète, il donne plusieurs messages, et à chaque moment, on le verra, il y a trois messages. Il nous dit « Écoutez, vous tous les peuples. Écoutez, vous tout le monde. » Donc nous aussi, on est compris dans ce lot. « Sois attentive, terre, avec ce que tu contiens. » Et là, il annonce un jugement imminent. Et il utilise des paroles très visuel ou très graphique pour désigner la colère de Dieu qui vient punir son peuple. C'est l'apôtre Pierre qui dira dans 1 Pierre 4 que le jugement de Dieu commence par sa maison. Et là, le jugement de Dieu, il commence par son peuple d'Israël et de Juda. Parce qu'on peut penser que son désir, c'est d'utiliser son peuple pour témoigner de lui auprès des gens qui ne le connaissent pas, auprès des païens. Et donc, pour avoir un instrument efficace, il doit purifier cet instrument, il doit laver le couteau, en quelque sorte, il doit faire la vaisselle, pour parler un peu vulgairement. Mais c'est ce qu'il fait, il commence par juger son peuple pour le purifier afin de pouvoir avoir un témoignage puissant que l'Esprit Saint peut bénir pour toucher le monde. Et c'est vrai pour l'Église aujourd'hui. Dieu doit juger son Église, Dieu doit purifier son Église pour qu'elle puisse être utilisée par lui et sauver, être un instrument de salut pour le monde. Et régulièrement, c'est ce qu'il a fait au cours de l'histoire. La réforme, par exemple, dans les 15e, 16e siècle, c'était de dire la corruption s'est installée dans l'Église chrétienne. Il faut créer un réveil. On a vu des souffrances terribles. Et à chaque fois, il doit juger, il doit nous juger pour que nous soyons repris et que nous puissions être utilisés par lui. Ce n'est pas le message qu'on aimerait entendre. Bien souvent, on pense que, bon, même ma grand-mère était protestante, chrétienne, elle priait pour moi, donc je n'ai pas à me soucier de Dieu. Je peux continuer à faire ce que bon me semble. Non, écoutez-vous, tous les peuples, sois attentive, terre, avec ce que tu contiens. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans son saint temple, où là c'est traduit le palais de sa sainteté. C'est un peu un cadre judiciaire, c'est un peu comme un procès. Le Seigneur va venir et témoigner contre nous. Est-ce que Dieu pourrait témoigner contre moi dans un tribunal aujourd'hui, m'accuser de mauvaises actions, de mauvaises pensées, d'absence de bonnes pensées ou de bonnes actions? Sans doute, malheureusement. Mais on va voir aussi que le message de Michée, c'est que c'est un prophète qui parle avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. Il reflète l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu juste et saint qui ne peut tolérer le péché, mais Dieu est amour et il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient bénis. Encore une fois, le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. Dieu, dans sa sagesse, pour que l'amour soit véritable, il a donné la liberté à l'homme d'accepter ou de rejeter son amour. Et force est de constater que pour la plupart, le monde a rejeté cet amour et vit dans les conséquences d'un monde corrompu par le péché. Mais Dieu a de bons plans pour chacun de nous, même pour les païens. Il voudrait qu'ils soient sauvés, qu'ils viennent à la connaissance de la vérité, du salut en Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés, pour nos péchés à tous. Et c'est le récit donc d'une vision. Dieu parle encore aujourd'hui par des visions. Vous-même, si dans votre temps personnel, dans une réunion de prière, généralement il faut faire silence pour pouvoir voir quelque chose. L'homme est ainsi fait qu'il a du mal à être captivé par le sens de la vue ou d'autres sens et en même temps d'avoir le sens de l'écoute. On vit dans une société de médias, audio, vidéo, mais pour écouter, souvent, pour voir quelque chose, il faut couper un peu les distractions permanentes qui nous entourent. C'est un truisme, c'est quelque chose d'évident, mais... Et je suis le premier coupable, nous vivons dans un monde qui ne sait plus faire silence. On a ces petits appareils, à tout moment, on peut... Écouter de la musique, écouter des nouvelles, lire des nouvelles, voir des vidéos, voir des photos, envoyer des messages, les liker, les pas liker. Et je crois que c'est un phénomène de société bouleversant. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, ça, l'histoire nous le dira, mais j'ai mes doutes que ce soit toujours pour le meilleur. On peut communiquer instantanément, mais on a du mal à trier l'importance des informations qui sont disponibles ou pas. Juste une petite parenthèse, il ne l'a pas tellement répété pendant la retraite. Mais le pasteur Bob disait que, en fait, la vie, c'est très simple. Il s'agit de faire la chose suivante la plus importante. À chaque moment, on peut se demander quelle est la chose la plus importante que je dois faire maintenant. Mais encore faut-il recevoir la sagesse de Dieu et faire silence devant Dieu pour savoir quelle est cette chose suivante à faire. Et je pense que c'est un principe très intéressant parce que justement on est tellement débordé par les informations, par les choses à faire. Je ne sais pas, peut-être parmi vous il y en a qui se sont ennuyés il n'y a pas longtemps, peut-être c'est pendant que vous m'écoutez. Mais je ne peux pas me rappeler d'un moment où je m'ennuyais, comme les enfants disent « Maman, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. » on est constamment bombardé par des choses à faire, par des activités, des priorités. Mais là, il a cette vision, il a fait silence, il n'avait pas de téléphone. Et il voit, et il le décrit en termes très poétiques, « Voici que l'Éternel sort de sa résidence, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre, sous ses pas les montagnes s'effondrent. Les vallées s'entrouvent comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente. » Une image de sa toute-puissance, sa puissance inquiétante et effrayante quelque part. Et tout cela à cause de la révolte de Jacob. Jacob, c'était l'ancêtre commun, c'était lui qui avait été renommé Israël, mais c'est l'ancêtre commun de Juda et d'Israël. À cause des péchés de la communauté d'Israël. Quelle est la révolte ou qui est responsable de la révolte de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Donc il s'adresse à la ville du Nord, à la capitale du Nord, Samarie, mais aussi à la capitale du Sud. Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Samarie s'est révoltée, ou plutôt Jéroboam, le premier roi du Nord, s'est révolté contre Dieu en se révoltant contre le royaume du Sud, qui était le royaume unique voulu par Dieu. Et aujourd'hui encore, on peut monter, quand on visite Israël, on peut voir l'endroit où se trouvait le temple des idoles à Dan, dans le Nord. Le temple n'existe plus vraiment, il y a encore une base, mais ils ont reconstitué en métal, en fer forgé, la silhouette de l'autel sur lequel étaient sacrifiés des animaux à des idoles, parce que ce n'était pas le vrai Dieu qu'ils respectaient. Le vrai Dieu devait être, à l'époque, adoré à Jérusalem, dans le temple. Et donc, il y a non seulement de l'idolâtrie dans le nord, mais il y avait aussi des hauts lieux où c'était sur des collines où on faisait des sacrifices, où on se livrait à l'idolâtrie dans Juda, à Jérusalem. Donc il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Le nord comme le sud se sont éloignés de Dieu et se sont mis à l'idolâtrie. L'idolâtrie aujourd'hui, c'est pas nécessairement d'avoir des petites statuettes devant lesquelles on s'incline, mais comme je le répète souvent, c'est tout ce qui prend la place qui devrait revenir à Dieu, c'est-à-dire la première place dans nos soucis, dans nos préoccupations, dans nos valeurs, pour décider justement quelle est la chose la plus importante à faire maintenant. Si on écarte Dieu, si on a d'autres priorités, si on veut devenir riche, si on veut devenir célèbre, si on veut se complaire dans les plaisirs ou essayer de nouvelles choses, on va mettre ces choses à la place de Dieu. Et on va prendre des décisions qui ne sont pas de bonnes décisions. Et là, cette terrible promesse, il va d'abord faire un jugement local. « Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne. Je ferai rouler ses pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondations. » Le son est problème. Toutes ces sculptures sacrées seront brisées, tous ces salaires impurs seront livrés aux flammes, et je briserai toutes ces idoles rassemblées grâce au salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. Dans la Bible, il y a souvent cette analogie faite entre l'idolâtrie, adorer de faux dieux, et la prostitution, l'infidélité à Dieu. Et ces idolâtries, ces religions idolâtres s'accompagnaient souvent d'immoralités sexuelles. Il y avait des prêtresses qui se trouvaient ou qui étaient, qui officiait dans ces temples idolâtres, et une partie de l'adoration, de la religion, consistait à avoir même des relations sexuelles avec ces prostituées sacrées. On peut justifier beaucoup de choses quand on est enclin à faire le mal. Et nous devons nous garder nous-mêmes de ne pas donner de belles raisons pseudo-spirituelles à des choses qui sont des choses charnelles, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et la triste réalité, c'est que on pense que Michée officiait en tant que prophète entre 740 et 687. Ça veut dire qu'en fait, il a pu voir de ses yeux, une trentaine d'années plus tard, après cette prophétie, il a pu voir Samarie tomber aux mains des Assyriens en l'an 722 avant Jésus-Christ. Les Assyriens ont détruit Samarie. Et la prédiction qu'il n'y aurait plus qu'un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne, des pierres qui ont roulé par terre, des fondations mises à nu, on peut la vérifier aujourd'hui. On peut aller en Israël et on peut voir qu'à l'endroit de Samarie, il ne reste plus que des tas de ruines, qu'il y a une colline et qu'on peut voir des tas de colonnes, de pierres qui ont roulé dans la vallée. C'est absolument impressionnant de voir que Dieu peut nous annoncer le futur très précisément. Et ça, il n'y a aucune autre religion au monde qui puisse le faire. Les prophéties de Dieu sont un signe de la validité du message divin de la Bible. On va en parler un autre moment, mais si on a fait un peu de mathématiques, même pas très avancées, si on a fait un peu de probabilité, on sait qu'il y a ce qu'on appelle les probabilités composées. J'en vois qui sourient, qui ont connaissance de ça ou qui détestent les maths. Mais très rapidement, pour que les prophéties se mettent en place, ça veut dire que des conditions composées doivent se mettre en place, et la probabilité pour que ça se passe par hasard, c'est vraiment nul en fait. Et on en parle pour les prophéties concernant Jésus-Christ, mais là, pour que une ville se retrouve un tas de ruines, ça c'est, il y en a d'autres, mais que les pierres aient roulé dans la vallée, qui est même un terrain pour planter de la vigne. Aujourd'hui, on peut voir des champs de vigne cultivé par des gens locaux sur cet emplacement. Et verset 8, le cœur de Dieu, c'est pourquoi, c'est plutôt Michée qui a un cœur tendre, qui est plein de compassion et d'amour pour ses contemporains. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Déchaussé et nu, ça nous fait penser au prophète Ésaïe qui lui aussi a dû marcher nu. Alors certains disent que c'était simplement en sous-vêtements. Mais peu importe, c'était un signe de grande tristesse, de deuil. Un peu comme lorsqu'il revêtait des sacs de jute et s'habillait de façon absolument radical. Il n'y avait pas de recherche de beaux vêtements, c'était la honte quelque part, c'était un signe de deuil et de repentance. Et puis il dit, toujours parlant de Samarie, la capitale du Nord, en effet sa plaie est douloureuse. Une autre traduction, c'est incurable. Et puis là il dit, elle s'étend même à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ça, c'est la référence aux Assyriens qui ont continué, qui ont assiégé, qui sont arrivés jusqu'à Jérusalem. Et Dieu les a libérés au dernier moment et il leur a donné un peu plus de temps. C'est seulement en 586, rappelez-vous, on compte à l'envers, 722, pour aller vers l'an zéro de la naissance de Jésus. 586, c'était plus de 100 ans, 150 ans à peu près, après la chute de Samarie. Il dit que la plaie de Samarie, son sale état, sa blessure au niveau de la pureté morale et le fait que lorsqu'on n'est pas, on ne suit pas Dieu, on est gravement malade. Le péché, c'est une maladie incurable, sauf par Dieu. Sa plaie est douloureuse, sa plaie est incurable. Il est bon de se rappeler que les seules plaies qui sont incurables, ce sont celles que nous n'amenons pas à Dieu. C'est un peu comme si vous allez voir le médecin, vous avez une grave plaie qui s'infecte sous votre chemise ou votre t-shirt, le docteur vous demande comment ça va, vous dites « Oh, ça va ». Et vous lui dites rien de votre plaie, il ne peut pas vous guérir. De la même façon, nous devons faire silence, penser à nos vies et amener à Dieu les choses qui ne vont pas, les plaies que nous avons. Et donc là, il explique que ce qui va mal en Assyrie, ça a failli emporter aussi Jérusalem, ça va le faire plus tard. Et puis là, entre les versets 10 et 16, il va faire le parcours de Samarie à Jérusalem. Et là, quand on doit lire les noms des villes, d'abord il faut tourner plusieurs fois sa langue dans sa bouche, parce que c'est pas des choses qu'on prononce habituellement. Mais ce qui est remarquable, en fait, et qui n'apparaît pas tout à fait dans le texte, si on n'a pas des commentaires ou des notes, c'est qu'en fait, il utilise des jeux de mots pour décrire l'état lamentable dans lequel le jugement de Dieu va rendre Samarie. On va essayer de voir un peu rapidement l'effet de ces jeux de mots, ou comment ça fonctionne. Ne l'annoncez pas dans Gath. Gath, c'était la ville des Philistins. Donc ce n'était pas quelque chose qu'ont les Israélites. C'est David qui avait prononcé le premier cette parole après la mort de Saül. Il ne voulait pas que les Philistins se réjouissent de la mort du roi d'Israël. Et Gath, en fait, ça veut dire annonce. Donc ne l'annoncez pas dans la ville de l'annonce. Puis il dit ne pleurez surtout pas. D'autres versions disent ne pleurez pas dans Akko, qui est un mot qui veut dire pleure. Donc ne pleurez pas dans pleurville, dans la ville des pleurs. Roulez-vous dans la poussière à Beth Léafra. Beth, c'est la maison, et Afra, c'est la poussière. Roulez-vous dans la poussière, dans la ville de poussière, la poussière-ville. Passe habitant de Shafir. Shafir, en hébreu, c'est le mot qui désigne la beauté. Donc dans Beautéville, passe dans la nudité et la honte, l'inverse de la beauté. L'habitant de Tsanan, c'était sortir, c'était partir marcher, et il dit l'habitant de cette ville pour sortir ou de marche n'ose même pas sortir. Le deuil de Beth Hatzel, c'est la maison du voisinage, vous prive de son abri. Donc on refuse d'aider son voisin dans la ville du voisinage. où on ne peut plus, parce qu'en raison du deuil. Marotte, verset 12, c'est l'amertume. Et une autre traduction que l'habitant de Maros tremble pour son bien-être, c'est l'habitant de Amertumeville pleure amèrement, car le malheur est venu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire ville de la paix. Salem, c'est la paix. Autrement dit, il y a le malheur, il n'y a pas de paix dans la ville de la paix. Attelle les coursiers à ton char, habitant de Lachish. Lachish, c'est la ville c'est un mot qui veut dire cheval, ou qui est proche du mot qui veut dire cheval. Donc c'était les chevaux qu'on mettait à un char. Il dit, il faut que tu fasses ça dans la ville des chars, attelle tes coursiers à ton char dans la ville des chars et des chevaux. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi on a trouvé les transgressions d'Israël. Il accuse la ville de Lachish d'être un mauvais exemple qui a précédé les transgressions du royaume du Nord. Verset 14, c'est pourquoi tu renonceras à Moreshet Gatz, ça veut dire la ville des possessions, tu renonceras aux possessions dans la ville des possessions. Les maisons d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. C'est vrai que c'est difficile lorsqu'on fait sa lecture quotidienne de la Bible et on tombe sur ces noms. Les maisons d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Et alors, Akzib, c'est le mensonge. Donc la ville du mensonge sera une source de mensonge pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitant de Maresha. Je t'amènerai un nouveau conquérant qui sera l'Assyrien, dans la ville de l'héritage. L'héritage de liberté va être maintenant conquis. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adullam. C'est aussi un mauvais témoignage. Ça veut dire une tour manquante. Donc, la gloire d'Israël, qui consistait non seulement dans la puissance de ses troupes, dans la beauté de son culte à Dieu, de ses constructions, de ce temple, maintenant ça va être dans un endroit qui est mal construit, où il y a des tours qui manquent. C'est une façon poétique de dire comment Dieu va prendre le contraire de ce dont les gens se flattaient. Il va les faire souffrir. C'est terrible. C'est terrible. Il finit avec « Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris, rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont loin en exil, ils s'en vont en exil loin de toi. » Encore une fois, une façon de se montrer le deuil, c'était de se couper les cheveux qui étaient portés longs à l'époque. « Rends-toi chauve comme le vautour. » Notez bien qu'il n'a pas dit « Rends-toi chauve comme l'aigle. » Il y a des aigles chauves, « bald eagles » en anglais, qui sont beaux. Mais les vautours, non seulement ils sont laids, ils sont chauds, mais ils ont encore un peu de poils sur le cou. C'est vraiment... Et ils sont connus pour tourner autour des cadavres. L'autre jour, quand on était à la montagne, on a commencé à voir des choucas qui tournaient autour de nous, les nuages qui se baissaient. Et c'est pas un bon signe. Lorsque les choucas viennent regarder au-dessus de vous, ils se disent, ceux-là, ils sont perdus. On a peut-être un festin qui arrive. Non, je plaisante, mais... Et puis, il continue au chapitre 2, on va lire, « Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit. Au point du jour, ils le réalisent quand ils ont le pouvoir en main. » Ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les prennent, ils traitent avec violence le maître et sa maison l'homme et son héritage. Autrement dit, il y a beaucoup de désir de s'enrichir de façon illicite en faisant du mal aux pauvres. Et le prophète Michée leur souhaite le malheur parce que c'est très, très réaliste. Dès le matin, avant de se lever, ils ont déjà pensé à des mauvais coups qu'ils peuvent faire pour s'enrichir, pour avoir le pouvoir. Ils s'emparent des maisons, ils les prennent. Ils usent de violence. Verset 3, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, je prépare contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas votre cou et vous ne marcherez pas la tête haute car ces temps seront mauvais. Ce jour-là, on fera de vous le sujet d'un proverbe. On chantera une complainte, on dira nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Comment ? Il me l'enlève, il distribue nos champs à l'ennemi. Dieu peut utiliser les païens, les ennemis, ses ennemis même, pour discipliner son peuple. Et c'est dur quand on voit les païens mieux traités que, soi-disant, les chrétiens ou les croyants. Mais Dieu peut nous provoquer à la jalousie, c'est ce qu'il fait avec le peuple d'Israël lorsque Paul parle dans Romains de l'Église, qu'il va utiliser l'Église pour rendre jaloux Israël de son héritage et pour les faire revenir à lui. Il distribue nos champs à l'ennemi, ce n'est pas quelque chose qu'on aime voir. Et puis il dit, c'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part du pays dans l'assemblée de l'Éternel. On ne va pas te faire de place parmi l'assemblée de l'Éternel. L'ensemble des gens et des peuples qui seront bénis par lui, il n'y aura plus de place pour eux. Ne discourez pas, discourt-il. On ne discourra pas de telles choses. La honte n'en finit pas. Qu'est-il dit, famille de Jacob ? L'Éternel serait-il impatient ? Est-ce sa manière d'agir ? Autrement dit, il voudrait. C'est un contraste entre les vrais et les faux prophètes. Les faux prophètes disent aux vrais prophètes de ne pas parler. Ne discourez pas, discourt-il. On ne veut pas entendre parler de catastrophe. On ne veut pas entendre parler de jugement. Et aujourd'hui encore, il y a des mouvements ou des églises qui ont tendance à vous faire croire que tout va bien, que vous allez être bénis maintenant, ici-bas, par la richesse, la santé, et pour l'éternité, sans avoir à suivre Dieu, sans avoir à être proche de lui. On n'aime pas entendre les mauvaises nouvelles qui nous disent que Dieu est un Dieu de grâce, mais c'est aussi un Dieu de sainteté, et si on continue à le rejeter, ça montre peut-être qu'on n'a pas reçu sa grâce. La grâce de Dieu, c'est le thème de la Bible. La faveur qu'on ne mérite pas, la faveur de Dieu qu'on ne mérite pas. Là, il est en train de montrer le côté sombre de la grâce qui devrait être la punition que nous devrions recevoir. Et puis, il continue, verset. Qu'est-il dit, verset 6, à la fin du verset 6, qu'est-il dit, famille de Jacob ? L'Éternel serait-il impatient ? Est-ce sa manière d'agir ? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture ? Celui qui marche avec Dieu, il n'a pas de souci à se faire. Depuis longtemps, mon peuple se dresse comme un ennemi. Vous enlevez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Là encore, des actes condamnables. Profitez des gens qui sont allés à la guerre. Vous chassez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple. Vous enlevez pour toujours ma gloire à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de vos souillures, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes, il sera pour ce peuple un prophète. Autrement dit, il dit, s'il y a des faux prophètes qui disent que ce n'est pas un problème de boire des boissons fortes, le peuple l'acceptera. Il va y avoir des douleurs. Il promet des choses difficiles à Samarie qui s'est détournée de Dieu, qui s'est endurcie dans l'idolâtrie que Dieu considère comme une prostitution spirituelle. En même temps, ils se sont livrés à la prostitution sacrée physique et ils ne sont pas revenus à lui. Ça, c'est le jugement de Dieu. Mais Dieu ne peut s'empêcher de réconforter son peuple. Même lorsqu'il nous juge, il veut toujours nous laisser l'espoir. Il veut toujours nous dire son amour. Quand vous étiez enfant, vous avez sans doute entendu vos parents vous dire « Je te donne une fessée ou je te corrige, mais c'est pour ton bien parce que je t'aime. » Et souvent on dit « Si tu m'aimais, tu me ferais pas mal. » Dieu, c'est pareil. C'est par amour qu'il vient nous juger. Il va utiliser en fait l'exemple de Samarie pour retarder le jugement de Judas, de Jérusalem. Et puis il leur dit, versets 12 et 13, « Je te rassemblerai tout entier, Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante. » Donc il promet à Jacob, tout entier, il va rassembler les restes d'Israël. Cette théologie ou cette philosophie ou cette approche du reste d'Israël, c'est quelque chose de constant dans l'Ancien Testament. Dieu a un plan pour un reste d'Israël. Tout Israël ne sera pas condamné. Parmi les gens d'Israël, parmi son peuple, il y a des gens qui se retourneront, qui reviendront à lui. Et il nous garantit que c'est une façon de nous dire que si vous revenez à moi, vous serez sauvés. Je te rassemblerai tout entier. Il n'y a pas de « je rassemblerai seulement les gens qui viennent d'une de ces villes, de Moréchatz ou Beth-Ephrath et les Ephra. » Non, non. Où que vous soyez, ou qui que vous soyez, si vous revenez à moi, vous pouvez le faire. Je te rassemblerai tout entier, Jacob. Il s'adresse aux deux, Judas et Israël. Je rassemblerai les restes d'Israël, c'est pour l'ensemble. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Et il y aura du monde, il y aura une foule bruyante. Et puis, il y a un verset qui est souvent méconnu, que vous pourriez souligner, le verset 13. Pour moi, c'est un verset clé de ce petit livre. Il y a d'autres versets, on les verra. C'est dans le livre de Michée que l'endroit où le Sauveur va naître est annoncé. Bethléem Ephrata, on chante ça à Noël. C'est Michée, c'est une prophétie de Michée. Il nous dit aussi, Michée 6:8, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Le nom de Michée, c'est le même nom que Michel, ça veut dire qui est comme l'Éternel, qui est comme Jéhovah. Et il est unique, ce Dieu. On pourrait dire qui est comme Dieu dans le pardon, qui est comme Dieu dans le jugement, mais qui est comme Dieu dans le pardon et dans l'amour. Et un autre verset, justement, c'est celui qui fait la brèche. Celui qui fait la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, la franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. C'est un superbe verset messianique. Ce verset, il parle de Jésus-Christ. Lorsqu'il y avait des troupeaux, il y avait souvent quelqu'un qui devait ouvrir la voie. Pendant la randonnée à la montagne dimanche dernier ou samedi dernier, on a vu de haut un peu un emplacement où il y avait des grosses pierres qui délimitaient un enclos pour les brebis. Et il n'y a pas très longtemps, c'était encore utilisé, ça avait l'air de ne plus être utilisé maintenant. Maintenant, ils plantent des piquets avec des fils électriques et des filets rouges pour qu'on les voit. Et c'est là qu'ils mettent leurs brebis la nuit pour les protéger des prédateurs comme les loups du Mercantour. Mais il fallait faire la brèche, il fallait casser des rochers, il fallait faire un passage. Et dans d'autres traductions, ou en hébreu, c'est le mot de casseur. C'est celui qui casse, celui qui fait la brèche. En anglais, c'est the breaker. Celui qui casse. On pourrait intituler ce verset Jésus le casseur. Le casseur pour la bonne cause. Qu'est-ce qu'il casse? On en parlera dimanche prochain. Mais il fait la brèche. Et il nous permet de nous sortir de l'état de péché, de pécheur dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous, trop souvent, nous complaisons. Pour terminer, j'aimerais vous lire un petit message. C'est un petit poème. Ce petit poème, j'étais revenu en France dans l'idée peut-être de faire quelque chose dans un ministère. Je cherchais du travail, j'étais monté à Paris pour des entretiens. Puis j'étais pas loin de la ville de mon enfance, Courbevoie. Courbevoie, avant que ça soit détruit, rasé et construit en un centre moderne avec des tours et le quartier de la Défense, etc. Mais je me souvenais que j'avais été baptisé à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, dont je porte les prénoms. Mon deuxième prénom, c'est Pierre, Paul. J'ai même un troisième, Joseph, à l'époque, on voulait honorer la famille, donc c'est Pierre-Paul-Joseph. Et j'étais allé à l'église où j'avais été baptisé. Et je remerciais Dieu que j'avais été baptisé enfant, j'avais reçu une certaine instruction religieuse, puis que je m'étais éloigné complètement. Mais là, je vivais dans l'espoir de plaire à Dieu, de l'honorer. Mais je ne savais pas ce que ça pouvait signifier. Et j'étais tombé sur ce poème qui était là, affiché, pour encourager les gens à servir Dieu. Tous ces gens ne savent pas encore qu'à l'aube, les verrous ont volé en éclats. Ils ne savent pas encore que dans leur condamnation à vivre, une brèche s'est ouverte en explosant comme un éclat de rire. Une brèche qui a été ouverte. Ils ne savent pas encore, mais qui va leur dire ? Qui va se lever pour aller le leur dire ? Qui va leur dire qu'au-delà de leur hiver, le printemps est aux cerises ? Qui va leur dire que derrière leur mur, le soleil est aux fleurs ? Qui va leur dire que le trou ouvert par la croix est assez grand pour que tout homme puisse y passer, debout, la tête haute ? Que grâce à cette victoire, un chemin s'est ouvert pour sortir des tombes ? Et que de l'autre côté, il est des terres vierges ? Qui va leur dire qu'un peuple s'est levé, pluriel comme les étoiles, et que son futur claque au vent de l'esprit ? Qui va dire à ces aveugles de l'existence que Dieu est lumière ? Qui va dire à ces handicapés de la vie qu'ils sont invités à danser ? Qui va dire à ces sourds et muets du silence que la parole est de retour ? Qu'ils doivent s'en saisir et la partager comme du pain pour une fête ? Qui va leur dire qu'il est grand temps ? Qui va se lever pour aller le leur dire ? Qui ? Toi, suis-moi. Prions. Seigneur, merci pour cette prophétie qui nous rappelle encore ta sainteté et ton jugement, mais aussi ton amour et ton pardon. Seigneur, aide-nous à réaliser que tu as de bons plans pour notre vie, pour nos vies, Seigneur. Tu veux que nous te suivions et que nous recevions ta force, ton esprit, pour gagner ces combats, Seigneur, et te faire honneur et te glorifier. Merci, Seigneur, que nous étions prisonniers dans nos péchés. Mais toi, tu as fait la brèche, tu as cassé les murs de nos prisons, Seigneur, de péché. Tu veux nous encourager à annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Aide-nous à le faire, Seigneur, avec la tendresse et l'amour pour les autres, la compassion que tu nous as montrée, Seigneur. Même si nous voyons ces descriptions terribles des souffrances auxquelles tu appelles ton peuple qui ne se repent pas, c'est toujours dans l'espoir de détourner du péché un grand nombre. Seigneur, sois glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à savoir que tu es incomparable, Seigneur. Tu es un Dieu incomparable, que ce soit en sainteté, que ce soit en jugement, mais aussi que ce soit en pardon et en amour. Seigneur, sois béni, sois glorifié dans nos vies, dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.